Il est 8h30 à Kinshasa, merci d'écouter RFI 7h30 en temps universel. Un nouveau journal avec vous, Edouard Dupénoat, et l'actualité africaine entre Cour et Prétoire du Bénin à la République démocratique du Congo.
Entre la criette de Cotonou qui inculpe, entre autres, des hauts fonctionnaires, ils auraient touché de l'argent pour faciliter la création d'un nouveau parti politique. Agathe Abiarimana, qui n'est pas mise en examen pour entente en vue de commettre un génocide, la chambre d'instruction rejette la demande du parquet antiterroriste. L'affaire tentaculaire de l'avion présidentiel, c'est au Mali, audiencé de nouveau ce matin après 6 mois de suspension, et enfin donc la justice congolaise, qui se verrait bien enquêter sur son propre ministre, Constant Mutamba, encore faut-il que l'Assemblée lui en donne le droit. Dans ce journal encore, l'esquive subtile de Cyril Ramaphosa, au bras de fer en mondovision que lui proposait Donald Trump, et l'album Walla Walla Bok ressuscité d'entre les bandes poussiéreuses, ce rap Wolof devenu hymne de ralliement contre Abdou Diouf à la fin des années 90, il a bien failli ne jamais reparaître. Deux hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur du Bénin, ainsi qu'un homme d'affaires établi au Canada et fraîchement débarqué sur la scène politique, ont donc été inculpés ces dernières heures par la criette. La Cour de répression des infractions économiques a délibéré jusque très tard cette nuit dans une affaire révélée la semaine dernière. 3 personnes placées donc en détention provisoire pour corruption d'agents publics et blanchiment de capitaux, suspectées d'avoir monté une affaire pour favoriser l'agrément officiel du libéral, un nouveau parti politique, et tout cela à 1 an de l'élection présidentielle. Jean-Luc Aplogan suivait ces longs débats nocturnes.
Leur inculpation pour corruption et leur placement sous mandat de dépôt leur ont été notifiés cette nuit. Leurs conseils ont fait des observations, plaidé devant le juge des libertés sans pouvoir leur éviter la détention provisoire. Au début de l'affaire, le procureur spécial Mario Metonou a signalé que les mises en cause ont fait des aveux au cours des investigations. Selon lui, le fondateur du parti a reconnu avoir versé 7 millions de francs CFA en contrepartie de l'intervention des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur pour l'obtention de l'agrément de son parti. Toujours selon le procureur, un des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur a avoué avoir perçu 5 millions de francs CFA, somme retrouvée à son domicile lors d'une perquisition. Avant son interpellation, Richard Boni Ouourou, chef du nouveau parti, le libéral, était régulier dans la presse et sur les réseaux sociaux, se présentant comme un entrepreneur béninois prospère au Canada. On lui prêtait des ambitions pour la présidentielle de 2026. Il multipliait les vidéos pour donner l'image d'un homme accessible et généreux. Aujourd'hui, ces vidéos sont tournées en dérision sur les réseaux sociaux. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Tandis qu'un troisième fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, en l'occurrence le secrétaire général, est poursuivi, mais lui, sans mandat. Agathe Abiarimana n'est donc pas mise en examen. L'actualité judiciaire encore en France, où la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris rejette la demande du parquet national antiterroriste. Il réclamait que la veuve de l'ancien président rwandais soit mise en examen pour entente en vue de la commission d'un génocide, en l'occurrence celui des Tutsis en 1994. Agathe Abiarimana, qui est visée depuis 2008 par des enquêtes ouvertes en France, notamment pour complicité de génocide et de crimes contre l'humanité, son avocat, maître Philippe Meillac, estime que l'affaire se dirige vers un non-lieu définitif.
À cette audience, le parquet a essayé de tordre les principes juridiques en persistant auprès de la Cour dans sa demande de mise en examen, mais en quelques minutes, la Cour a rejeté cette doléance en délibérant, comme on dit dans notre jargon, sur le siège et en déclarant sans objet la requête déposée en septembre dernier par le procureur. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on peut clairement prendre date pour le prononcer une ordonnance de non-lieu dans le courant du mois d'août prochain, dont peut-être il y aura par la suite appel, enfin, probablement d'ailleurs, du procureur et des parties civiles. Mais en réalité, voilà, je crois que c'est une décision qui est attendue depuis 17 ans par ma cliente, qui est on ne peut plus logique. Je crois qu'on peut compter sur la juge d'instruction française pour restituer non seulement son innocence à ma cliente, mais également son honneur, puisqu'on a vu là dans la dernière décision qui a été prise qu'il était clairement fait évidence à je dirais, ce qu'elle est, c'est-à-dire une victime de l'attentat et non pas une auteure de quoi que ce soit, une coupable de quoi que ce soit. Voilà.
Maître Philippe Meillac, propos recueillis par Eva Massine. Tandis qu'au Mali, la cour d'assises de Bamako rouvre ce matin un dossier suspendu il y a 6 mois et ouvert pour la première fois il y a 11 ans. Reprise du procès dit de l'avion présidentiel et des surfacturations d'équipements militaires, des malversations financières estimées à 130 milliards de francs CFA, environ 198 millions d'euros. Elles éclaboussent au moins 9 personnes, anciens ministres, militaires, hommes d'affaires, sauf que depuis la dernière audience en novembre, les choses ont un peu bougé puisque les magistrats ne sont plus tous les mêmes et que l'ex-ministre de l'économie est aujourd'hui hospitalisé, David Bachet.
En détention provisoire depuis près de 4 ans, plus que la durée légale, Boiré-Félicie Sokho n'a cessé de réclamer d'être jugée pour, selon elle, prouver son innocence. Mais l'ex-ministre de l'économie, près de 70 ans, est hospitalisé depuis un mois et demi en raison de plusieurs pathologies. Hospitalisée mais prisonnière, ses demandes de libération provisoire ayant été systématiquement rejetées. Elle n'est pas en état de comparaître, ni physiquement ni psychologiquement, déplore son avocat, Maître Tunkara, certificat médical de l'hôpital du Mali à l'appui. Il y a 6 mois, le procès avait été suspendu après 3 semaines d'audience pour permettre l'audition de nouveaux témoins. Les auditions ont bien eu lieu, mais entre-temps, sur les 5 membres de la cour, 4 ont été remplacés. Des changements qui, de sources judiciaires, sont liés à des nominations dans d'autres juridictions ou à des indisponibilités personnelles. Dans ces conditions, le procès reprendra-t-il là où il avait été laissé? Les discussions repartiront-elles de zéro? Ces deux affaires ont déjà connu plusieurs rebondissements judiciaires et tiennent le Mali en haleine depuis plus de 10 ans.
Explication de David Bachet. Le président américain reçoit son homologue sud-africain qui évite le piège tendu par Donald Trump. Cyril Ramaphosa a eu droit, pourtant, devant les caméras du bureau ovale, à un début de bras de fer inattendu. Le milliardaire a voulu lui brandir sous les yeux les preuves d'un supposé génocide dont serait victime la minorité blanche sud-africaine. Mais le président Ramaphosa ne s'est pas décontenancé et il a démenti, avec l'aide de sa délégation, cette supposée discrimination. Guillaume Nodin n'en perdait pas une miette.
Le bureau ovale a connu des moments de tension depuis le retour de Donald Trump. C'est pour cela qu'il y avait un peu d'inquiétude. Passé les politesses d'usage, le président américain a montré à la délégation sud-africaine un montage vidéo censé illustrer les menaces contre la minorité blanche selon lui, des menaces qui justifient d'accorder le statut de réfugié à des Afrikaners selon Donald Trump.
Il y a beaucoup de gens qui se sentent persécutés et qui viennent aux États-Unis. Ils arrivent de nombreux endroits. Nous les acceptons si nous avons le sentiment qu'il y a persécution ou génocide. Et dans de nombreux cas, je dois vous le dire, Monsieur le Président, ce sont des fermiers blancs et ils fuient l'Afrique du Sud.
Le président sud-africain a déjà expliqué que c'était faux. Alors au lieu de se répéter, il est venu avec des Afrikaners, dont son ministre de l'Agriculture et 2 célèbres joueurs de golf, le loisir préféré de Donald Trump. Cyril Ramaphosa comptant sur eux pour convaincre son hôte.
Il faudrait que le président Trump écoute des Sud-Africains dont certains sont de bons amis à lui, comme ceux qui sont ici. Je dirais que s'il y avait un génocide des fermiers Afrikaners, je vous parie que ces messieurs ne seraient pas ici.
Effectivement, cela a détendu l'atmosphère d'une rencontre qui s'est très bien passée, selon le président sud-africain. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
Le procureur général près la Cour de cassation en République démocratique du Congo demande à l'Assemblée nationale le droit de poursuivre l'actuel ministre de la Justice, Constant Mutamba. Il est suspecté de détournement de deniers publics. C'est en fait le projet de construction d'une prison à Kisangani qui intrigue les magistrats. Un projet à 39 millions de dollars dont 19 millions ont déjà été décaissés sans contrôle ni certitude sur l'origine des fonds. Pascal Moulégois.
Les marchés de gré à gré a été conclu sans l'aval de la première ministre ni de tous les organes de contrôle. La cellule de renseignement financier avait bloqué les virements, évoquant des doutes. Autre anomalie avancée par le procureur, les fonds ne venaient pas du trésor public mais du Frivao, un établissement chargé de gérer les 325 millions de dollars dus par l'Ouganda à la RDC au titre des réparations des guerres, un fonds sous tutelle du ministre de la Justice. L'ONG congolaise Azado appelle à la prudence, car si le ministre a détourné ou tenté de détourner des fonds, il doit être poursuivi. Mais si ce sont des allégations montées contre lui par des politiciens ou des opérateurs judiciaires, nous devons lui apporter notre soutien. Fin de citation. En coulisses, les tensions entre Constant Mutamba et les parquets couvrent depuis plusieurs mois. En novembre, il avait ordonné une enquête sur l'achat d'un immeuble à Bruxelles par le procureur général. L'affaire avait fait du bruit avant qu'on apprenne que l'achat était à crédit. Est-ce une riposte du procureur 6 mois plus tard? Un haut responsable judiciaire assure à RFI, il faut considérer la clameur suscitée par les dossiers du ministre, pas d'animosité. Pascal Moulegua, Kinshasa. RFI.
L'Assemblée a mis en place une commission spéciale pour entendre le ministre et examiner les preuves du procureur général. Un vote en plénière est prévu la semaine prochaine.
On termine au Sénégal, Edouard, avec cette belle histoire comme seul Internet peut en fournir.
L'histoire d'un homme, en l'occurrence, qui tombe sur une petite annonce sur le web, la vente pour 3 fois rien d'une vieille cassette audio. Sauf que cette cassette, en fait, c'est un album culte. Walla Walla Bok, hymne en Wolof de la contestation des jeunes contre Abdou Diouf. Nous sommes en 1996. Un hymne signé du tri Pifros. Christina Okello nous raconte toute l'histoire de cette renaissance.
Des voix scandées en wolof où riment colère et conscience politique. À l'origine de ce cri, 3 jeunes de la Médina à Dakar, leur groupe Pifros. En 1996, leur album devient la bande-son d'une jeunesse en révolte. Sam Lamontagne, producteur basé à Los Angeles, revient sur son importance.
Cet album est important, c'est que du coup il est sorti en 1996, à un moment où le président c'était Abdou Diouf, ça faisait 19 ans qu'il était au pouvoir. Il essayait de faire un troisième mandat pour rester encore plus longtemps. Cet album, il a fait partie de la génération Boule Falé, un mouvement social qui luttait contre la corruption. Pifros, ils ont beaucoup participé à pousser ce mouvement social et à donner en fait cette nouvelle énergie à la jeunesse sénégalaise.
Mais l'histoire de Walla Walla Bok a bien failli se perdre. La réédition n'a été possible qu'après une rencontre improbable à Los Angeles entre Kuman, cofondateur du groupe, et Sam Lamontagne.
C'est un album qui est sorti seulement en cassette en 96. Il n'a pas du tout été préservé. Les bandes étaient complètement détériorées. Ces cassettes-là, maintenant, en fait, elles n'existent plus. Et par miracle, j'en ai trouvé une, en fait, quelqu'un la vendait sur Rakuten, le site, là. Et du coup, je l'ai achetée, elle était à seulement 10 euros, sauf que le vendeur ne livrait que en France. Et du coup, je l'ai envoyée à ma mère, qui me l'a envoyée après à Los Angeles.
Récupérée, numérisée, restaurée, Walla Walla Bok a fait salle comble en février dernier à Dakar. Un album culte, mémoire vive du hip-hop sénégalais.
Christina Okello, à l'écoute de RFI à Dakar, il est 7h42.
Et c'était le journal d'Edouard Dupénoat. Merci Edouard.